Elsa, vous savez quoi ?
Dites-moi tout, Michel.
Je vais tout vous dire. Aujourd'hui, on va faire, c'est une journée pas comme les autres, on va faire une émission un peu différente des autres.
Ah.
On va se cultiver.
C'est bien ça.
C'est, voilà,
tu vas me faire encore la petite vanne ? Vas-y, ça te fait plaisir.
Non, pas de petite vanne comme ça, non, c'est pas trop. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, en tout cas, une chose bien réelle, c'est que nous allons lancer le générique.
Allez, c'est parti.
Allez, générique.
Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Elsa Bawartz, Michel Berger.
Les artistes ont la parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci d'être là. Et oui, c'est une nouvelle édition des artistes ont la parole, bonjour Elsa.
Bonjour Michel.
Toujours dans la joie et dans la bonne humeur, toujours, enfin vous avez des secrets, vous voulez pas nous les dire.
Je le cache Michel, mais t'as eu quelques conseils quand même, hein. Ça t'a fait du bien.
Oh là 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 là. Vous êtes un vrai coach. Hein. Ah ouais, non, mais j'hallucine. Hein. En tout cas, ouais. Il n'y a pas de secret, c'est le soleil. Et le soleil, on le trouve où ? À la radio, dans Les Artistes ont la parole, grâce à Elsa. Voilà. Bonjour Wally Bageux, qui est là en notre compagnie. Toujours fidèle au rendez-vous.
Bonjour Wally.
Bonjour Elsa, bonjour Michel.
Vous êtes en forme aussi ?
Très.
Ouais, comme chaque semaine, effectivement. On vous retrouvera en troisième partie d'émission pour votre superbe chronique que vous avez écrite avec votre plume en or.
Merci Michel.
Mais si, on peut le dire. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Ah ouais, mais il est grand, mais géant comme ça. Il s'appelle Pierre Santini. Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour Michel, bonjour Elsa.
Bienvenue bonjour, à bord. Ça fait plaisir de te revoir.
Ah bah très plaisir de venir parler avec vous pendant consacrer une heure aux artistes et leur donner la parole, c'est formidable. Et être en plus celui qui va parler en leur nom, c'est encore plus formidable.
Ça fait quelque temps qu'on t'a pas vu, mais t'es un habitué de l'émission. Des artistes ont la parole. Bon, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était chez toi.
Oui, c'était chez moi. Oui,
c'était à l'époque où on travaillait en mobile. C'était une époque, ouais. Entre temps on a fait de la route, c'est sûr, on se retrouve dans des murs qui te rappellent des souvenirs, les murs de Cognac Jet. Tu nous disais en coulisses, ça me rappelle l'ORTF.
Alors ça me rappelle pas l'ORTF, hélas, ça me rappelle l'ARTF.
La RTF, carrément.
Avant l'ORTF. Oui, venir ici dans ces studios, pour moi, c'est très émouvant parce que, pour tout vous dire toute la vérité, c'est là que j'ai tourné la première fois de ma vie pour la télévision. Et c'était, je dois le dire, la date, oui. Oui, c'est pas mal, oui, quand même. En 1956. J'étais lycéen, j'étais en première, et mon prof de français, qui s'appelait Gilles Sandier, qui est devenu depuis quelqu'un, qui était devenu l'adjoint de Jacques Lang et un grand critique de théâtre, mon prof me dit un jour, vous n'êtes pas mauvais en récitation, Pierre, je vais vous emmener à la télévision jouer des scènes du grand monde d'Alain Fournier à Cognac-Jouet. Et je me suis retrouvé ici, je devais avoir 17, 18 ans, tu vois, à jouer des scènes du grand monde, que j'avais apprises par cœur, le trac et tout, dans ces studios où on est aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait une chaîne en noir et blanc. Et puis l'après-midi, il y avait la télévision scolaire. Et donc, on est avec un autre comédien dont je serais incapable de vous dire le nom. On a joué ces scènes dans une salle de classe telle qu'Alain Fournier l'a décrit, etc. Et c'est un souvenir extraordinaire. D'autant plus extraordinaire que quelques 20 ou 30 ans plus tard, professionnel confirmé, j'ai demandé à la télévision de me permettre de faire une réalisation. Et à l'époque, il y avait poché le petit théâtre d'Antenne 2. Et Antenne 2 m'avait donné pendant une semaine le studio Cognac-Jet pour répéter et mettre en scène la promenade du Marais de Jean-Yvan. Voilà. Avec Nils Arestrup dans le rôle principal, Jean de Ligne, et un garçon qui n'a pas fait l'enregistrement parce qu'il est tombé malade le jour de l'enregistrement, ce qui fait qu'on m'a redonné 8 jours gracieusement pour répéter avec un autre acteur, Gérard Darrieux.
On imagine que ça te remémore plein de souvenirs. Il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette émission, Pierre Santini. On trouvera Stéphanie Terrien qui refera ton portrait avec sa plume en or, grâce de Capitani, qui viendra nous donner des conseils pour cuisiner, et ouais, des recettes de cuisine. On trouvera Wally Bageux, Anne-Charlotte Monville, le tout dans un mélange savamment calculé. Place, zoom sur Pierre Santini. On imagine que tu ressens des émotions quand tu viens dans ces murs.
Bah, ce sont les émotions de quelqu'un qui a travaillé dans deux grands secteurs pendant 60 ans, le théâtre, qui est vraiment ma nourriture quotidienne, je ne pourrais pas vivre sans lui. Et la télévision, car ma génération faisait ou de la télévision ou du cinéma, mais elle ne faisait pas les deux. D'abord parce que la télévision était en plein démarrage, invention et tout, et que c'était fascinant pour nous de participer à l'invention du langage télévisuel avec les Bluval, les Lorenzi, les Jean Prat et tout ça, et des comédiens, les meilleurs comédiens issus du théâtre public et du théâtre privé. Et ensuite, parce que le cinéma regardait la télévision avec une certaine condescendance, et donc ceux qui faisaient de la télévision étaient un petit peu les laissés pour compte pour le cinéma, qui voulait garder un petit peu sa position aristocratique de septième art. Ça a passé un petit peu, pas complètement, mais ça a commencé à passer le jour où la télévision a mis de l'argent pour produire du cinéma. Alors le cinéma, tout d'un coup, a regardé différemment la télévision.
Direction le théâtre. En ce moment, tu es à l'affiche dans une pièce qui s'appelle « Dialogue aux enfers ».
Oui.
Ça fait peur. Tu es aux côtés de Hervé Briot au théâtre de Poche Montparnasse, que ça se déroule. On parle beaucoup de Montesquieu dans cette pièce.
On parle beaucoup de Montesquieu, on parle beaucoup de Machiavel et on parle beaucoup de philosophie et de politique. Qu'est-ce que c'est que le dialogue aux enfers ? C'est un dialogue philosophique, comme Platon en a écrit, comme des tas d'autres en ont écrit, qui a été écrit à la fin du 19e siècle par un Belge, Maurice Joly, qui a d'ailleurs fait quelques mois de prison à cause de ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'est servi de l'idée qu'il avait eue de faire se rencontrer deux grands philosophes qui ont parlé politique, politique au sens le plus noble du terme, bien sûr, Montesquieu au XVIIIe siècle, et Machiavel, petit noble italien de la Renaissance, à la fin du XVe siècle. Et ces deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer, grâce à la magie de ce type, de Maurice Joly, se rencontrent aux enfers, c'est-à-dire dans l'éternité, et vont échanger leur point de vue. Avec un qui s'ennuie aux enfers, qui n'a rien à faire, c'est Machiavel, qui dit « Tiens, je vais aller voir Montesquieu, là où il est, et puis on va discuter un petit peu. » Et ces deux hommes se retrouvent pendant longtemps, puisque le texte original est très très épais et très très long, à parler politique, mais c'est pas une pièce de théâtre. Et des gens de théâtre, le premier a été Pierre Freinet, le deuxième a été Pierre Franck, ont fait des adaptations théâtrales de ce texte. Et l'ont fait jouer. Alors Pierre Freinet l'a joué avec Julien Berthaud, François Chaumette l'a joué avec Michel Etcheverry dans l'adaptation de Pierre Franck. Il y a eu d'autres acteurs qui l'ont joué à Paris dans un théâtre moins important. Et puis Philippe Tesson, le directeur du théâtre de Poche, m'appelle un jour, me dit « Voilà, je voudrais que Pierre vous lisiez ça et vous me disiez ce que vous en pensez. » Je lis ça et j'adore. Pourquoi ? Parce que c'est la confrontation entre deux esprits opposés, l'un qui vante les mérites de la démocratie et de la République, l'autre qui vante les mérites de la tyrannie, du despotisme, de l'autoritarisme. Pourquoi il faisait ça, Machiavel ? C'est pas par conviction, c'est parce que c'était aussi quelqu'un qui servait les intérêts des Médicis et que les Médicis avaient besoin d'un texte qui les conforte dans leur pouvoir. Et donc, ces deux hommes se retrouvent et vont parler politique et échangent des points de vue contradictoires. Et c'est passionnant et drôle. Pourquoi drôle ? Parce que ce sont des gens cultivés qui ont beaucoup d'humour, qui laissent parler l'autre sans croire un mot de ce qu'il dit, donc il lui envoie des sandales et des piques. Mais c'est surtout passionnant parce que c'est vraiment deux conceptions de la vie politique et du pouvoir qui sont éternelles. La plupart des gens qui sortent du théâtre me disent « Mais c'est incroyable l'actualité de ce texte. » Alors on n'a pas de tyran ici, on a une démocratie qui a ses difficultés, ses crises et tout. Le sujet de l'autorité du pouvoir personnel est quand même posé en permanence par la Ve République, par notre Constitution, par l'attitude des présidents de la République, par ce qui se passe en Europe, en Hongrie, en Pologne, etc. Donc ce problème est présent, très présent. Montesquieu va défendre, lui, les théories d'une république démocratique et équilibrée, où les pouvoirs élus par le peuple sont inscrits dans les rouages d'un fonctionnement du pouvoir équilibré. Voilà, alors moi je me régale tous les soirs à faire ça, d'autant plus que je vous ai cité tout à l'heure, parmi les noms des pionniers de la télévision, le nom de Marcel Bluval. Mmh. Et que Marcel Bluval est le metteur en scène.
D'accord.
De ce texte et l'adaptateur. Pourquoi ? Parce que quand on m'a proposé le rôle de Montesquieu, on m'a proposé un des deux rôles. J'ai choisi Montesquieu par conviction personnelle. Mais j'ai dit seulement je ne le jouerai pas tel qu'il est parce qu'il ne se défend pas assez bien. Donc Bluval a repris le texte. Le texte original de Maurice Joly, il a refait une adaptation, il a rééquilibré le débat où les deux personnages avancent leurs arguments de manière à peu près égale, contradictoire mais égale. Et donc j'ai dit oui d'accord pour Montesquieu, ravi de retrouver Marcel Bluval avec qui j'avais tourné La vie de Mozart, Antoine Bloyer, etc.
Donc au théâtre de Poche, donc tous les mardis, du mardi au samedi.
Toute la semaine, sauf le lundi, oui.
Voilà, jusqu'à
et
fin décembre.
Et le dimanche
décembre,
à 15h, oui.
À peu près jusqu'à fin décembre, hein, c'est ça la
oui,
la pièce.
Au début, on devait faire jusqu'au 3 décembre, et très vraisemblablement, comme ça marche bien et que les gens ont l'air contents, mm-hmm. et que ce spectacle a une valeur, je dirais presque pédagogique, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes.
On rappelle le téléphone de réservation, c'est le 01 45 44 50 21. 01 45 44 50 21. Ça se trouve au 75 boulevard du Montparnasse à Paris, dans le 6e arrondissement. Sans plus attendre, on retrouve Stéphanie Terrien qui va refaire le portrait. Bonjour Stéphanie.
Les artistes ont la parole. Le portrait, Stéphanie Terrien.
Merci Michel, bonjour à vous. Vous demandez qui est Pierre Santini ? Pierre Santini est un acteur et metteur en scène franco-italien né le 9 août 1938 à Paris. Pierre Santini se forme auprès de plusieurs comédiens comme Jean Joulson, Jean-Pierre Darras ou encore Jacques Lecoq avant de commencer une carrière d'acteur. Il commence sa carrière au théâtre en jouant notamment en 1959 dans Le Crapaud Buffle d'Armand Gatti, mis en scène par Jean Villard, ou encore en 1963 dans Tartuffe. Puis tourne également au cinéma dans des films comme Défense de savoir en 1973 de Nadine Trintignant, ainsi que dans deux films de Claude Chabrol en 1974, Une partie de plaisir et Les Innocents aux mains sales. Et pour la télévision, il joue notamment dans les séries Rocambole, Seul à Paris, L'homme de Picardie ou encore Un juge, un flic. En 1975, Pierre Santini fonde sa première compagnie, le Théâtre du Décaèdre. Cette même année, il joue de nouveau sous la direction de Nadine Trintignant dans le film Le Voyage de noces. En 1977, il joue dans la pièce Le Mariage de Figaro. En 1983, il crée le TBM, Théâtre des Boucles de la Marne, à Champigny-sur-Seine et le dirige pendant 8 ans. L'année suivante, on le retrouve au théâtre dans la pièce Cyrano de Bergerac. En 1992 et pendant 4 ans, Pierre Santini joue le commissaire Massard dans la série Les 5 dernières minutes. La même année, il fonde la compagnie Pierre Santini. Puis il dirige, à partir de 2003, le théâtre Mouffetard pendant 9 ans. Pierre Santini préside en 2004 et 2005 la cérémonie des Molières. Depuis 2010, il joue le père d'Alice Nevers dans la série du même nom. Puis de 2011 à 2014, Pierre Santini joue le grand-père dans la série Clem. En 2015, il met en scène la pièce Barbe Bleue. Cette année sort son album Pierre Santini chante Paolo Conte en français. La pièce Dialogue aux Enfers, dans laquelle Pierre Santini joue le rôle de Montesquieu, est jouée depuis le 15 septembre au théâtre de Poche de Montparnasse. Pierre Santini est chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre National du Mérite et officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Ce que l'on peut retenir de Pierre Santini est sa longue carrière d'acteur et de metteur en scène, permettant de faire partager sa passion aux divers spectateurs.
Merci Stéphanie, place à la musique tout de suite dans Les Artistes ont la parole.
Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. Les Artistes ont la parole.
Les Artistes ont la parole, deuxième partie de cette émission. Merci de nous suivre, merci d'être là. Nous sommes avec Pierre Santini, nous avons cet honneur de le recevoir. C'est pas souvent qu'il vient, mais c'est vrai que c'est un habitué des Artistes ont la parole. Pierre Santini que vous pouvez retrouver actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse, c'est à Paris. Alors une question qui vient tout de suite, comme il y a toute la France qui nous écoute, est-ce qu'il y a une tournée nationale de prévue ?
Ah oui, c'est de plus en plus à l'ordre du jour, car vu le succès de la pièce, nous avons envie, le comédien Hervé Briot et moi, d'aller jouer ce spectacle le plus possible dans toute la France. Ça intéresse les jeunes, ça intéresse les adultes. C'est un spectacle facile à déplacer, car le décor est beau, mais assez simple. Mmh. Mais surtout, il n'y a que deux personnes à transporter. Mmh. Et ça peut aller dans les salles, à partir des petites salles de 100 places, qu'il y a des salles de 300-400 places, ou pas aller dans un théâtre de 1000 places, ça n'aurait aucun sens. Mais les théâtres de moyenne dimension, les théâtres de petite dimension, sont tout à fait aptes à recevoir ce spectacle. Pendant 1h20, 1h25, ils vont entendre deux acteurs parler, politique, parler philosophie, s'affronter et tout. Mais ça leur paraît toujours trop court.
Pierre Santini avec nous dans Les Artistes ont la parole. Elsa Mavoart, question.
Oui, une rentrée bien chargée. Pierre Santini, donc avec bien sûr cette pièce qui a l'air de cartonner, qu'on ira voir avec grand plaisir avec Michel Berger, donc au Théâtre de Poche. Et cet album, on peut parler un peu plus de cet album, de Paolo Conte. Il sort quand cet album ?
Ben, il va sortir dans les jours à venir, là, oui, mm-hmm. Bien sûr. Oui. C'est la suite d'un processus assez long, mm-hmm. qui a démarré quand j'étais directeur du théâtre Mouffetard, qui a démarré avec l'idée que je tombais amoureux de la musique de cet homme, Paolo, en écoutant un soir chez une amie, J'ai décidé non seulement d'aller voir ses concerts, mais d'aller le voir lui. Et je lui ai dit, vous savez, j'aimerais beaucoup chanter vos chansons en français. Il m'a dit, bah, fais-le, mon petit gars, fais-le. Bah oui, mais bon, bah si, fais-le. Et j'avais l'impression que j'étais la millième personne à lui dire ça, tu vois. Et donc, je l'ai fait. Je lui ai envoyé 3 titres, il était ravi. Et après, il m'a suivi tout le temps. J'ai fait quelques concerts au théâtre que je dirigeais à l'époque au Mouffetard. Puis après, on a été dans des cabarets à Paris, on a été en tournée, on a été en Avignon. On a même chanté à Rome. On a chanté un soir à Rome, dans un grand théâtre de Rome. Et Paolo m'a non seulement remercié, mais pour me soutenir, pour soutenir mon initiative, m'a envoyé une vidéo de lui en gros plan face à la caméra, me disant merci Pierre d'avoir respecté mon texte, mes intentions et de faire connaître au public français la poésie qu'ils ne comprennent pas puisque je chante en italien. Donc ça m'a été droit au cœur. Donc j'ai décidé de faire ce disque, que je l'ai fait vraiment à la force du poignet parce que c'est pas évident. Et maintenant qu'il existe, on va le sortir. Et surtout, je voudrais qu'il soit le démarrage d'un nouveau spectacle, Paolo Conte, enrichi bien sûr, avec des textes dont j'ai demandé à quelqu'un qui m'est très proche d'écrire les charnières humoristiques. Et si tout se passe normalement, c'est Pascal Légitimus qui va le faire et qui fait la mise en scène également. Mais les deux choses, le disque et le spectacle, finissent par s'associer dans une démarche commune pour faire connaître mieux la poésie de cet homme qui est un grand chanteur, un bon musicien, un interprète également, un compositeur, mais qui est aussi quelqu'un qui, comment dire, avec tous ses avantages de la création, affronte des publics dans le monde entier, dans une langue que beaucoup de gens parlent, mais que souvent on ne comprend pas. Et je me suis dit, c'est dommage qu'on n'entende pas aussi le poète.
Un peu comme vous, Pierre. Vous avez plusieurs casquettes.
Moi, j'ai qu'une casquette, vous savez.
Oui,
moi, je vais être très clair avec vous.
J'ai
une casquette, je suis acteur,
aussi.
Je joue comédien.
Oui.
Bon. Et puis quand je fais une mise en scène, je suis un acteur qui fait une mise en scène. Mm-hmm. Quand je chante, je suis un acteur qui chante. Quand j'aime, je suis un acteur qui aime. Non, là, je plaisante. Mais je suis avant tout un acteur et je tiens à le rester jusqu'à la fin de mes jours. Ouais.
Et la chanson, bien sûr, maintenant. Ah,
chanter, à partir du moment où on a une voix à peu près juste, on a un peu le sens musical. Je ne suis pas un grand chanteur. Hein. Je suis un chanteur qui chante juste et qui chante bien, mais surtout qui a envie, à travers les musiques qu'il aime. Qu'est-ce que j'aime ? Le jazz, j'aime les musiques sud-américaines, j'aime l'Italie, les chansons napolitaines. À travers tout ça, je retrouve Paolo. Où Paolo se retrouve dans tout ça. Donc, naturel que, en tant qu'originaire d'Italie, par mon père et un peu par ma mère, j'ai envie de faire passer cette poésie, qui est différente de la poésie française. Beaucoup de grands chanteurs ont eu envie de chanter Paolo, l'ont pas fait. La seule qui l'a fait vraiment, c'est Régine, quand elle a chanté à Touro. Mais la vraie poésie de Paolo, elle est dans ses textes italiens, et je me suis attaché dans les traductions à rester fidèle à ce qu'il avait écrit.
On peut rappeler donc l'album qui va sortir très prochainement, donc de Pierre Santini, Si Paolo m'ete conte. Voilà.
Et on rappelle le téléphone de réservation pour le théâtre de Poche-Montparnasse, Dialogue aux Enfers. C'est le 01 45 44 50 21. 01 45 44 50 21. Et puis via les sites internet habituel. On rappelle que ça se trouve au 75 boulevard du Montparnasse à Paris, dans le 6e arrondissement. Donc si vous prenez le TGV, que vous montez sur Paris, c'est juste à côté.
Tu veux appeler le théâtre de Poche aussi ?
Vous voulez qu'on appelle le théâtre de Poche ? Ah ben, on va faire un test. C'est Wally Bageux qui nous a dit ça. On pourrait tester tout ça.
On va rester sur note positive quand même.
Ouais, voilà. Donc,
vous n'allez pas me le faire toutes les semaines.
Si. Bah, allez, Wally Bageux, vous pouvez nous faire ce coup. Alors, on va téléphoner au théâtre. Voilà. Comme ça, on va savoir si c'est vraiment.
Prépare ta carte bancaire.
Voilà, tu prépares ta carte bleue surtout, parce que c'est ce qu'on risque de nous demander. Hein.
Une réservation de 100 personnes, ça te va, hein.
Voilà. Ah, ça commence bien.
C'est occupé, tout le monde réserve.
Ah, bah voilà, c'est saturé.
C'est la meilleure preuve du succès.
On va recommencer, on va demander à notre réalisateur de recomposer le numéro. On se concentre, attention. Compose le numéro, hein, qui est le 01 45 44 50 21. On le compose.
On n'a pas le disque.
Ah, mais c'est saturé, là. Ah, bah voilà. Vous êtes témoins. Vous êtes tous témoins. Le standard a explosé. Donc, vous pouvez passer par Internet.
Si vous, vous vouliez faire la preuve que ça marche, vous l'avez réussi. Là. Et moi, je suis enchanté. Hein.
Ah bah, voilà. Il suffit d'en parler à la radio pour...
Vous appelez vers 2-3 heures du matin, ça devrait être libre.
Voilà, l'imageux, vous êtes déçu. Vous vouliez faire votre petite blague par téléphone.
Je n'y arrive pas, quoi.
Oh, bah, on recommencera plus tard. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez tous, hein, et puis elle nous donne des cours. Alors, Pierre Santini, une question. Au niveau cuisine, comment tu te débrouilles?
Au niveau cuisine?
Oui.
Ah, c'est très simple. Mm-hmm. Ça dépend si je suis seul ou pas seul. Si je suis pas seul, je confie à la dame qui est avec moi, ou personne qui est avec moi, le soin de faire la cuisine et, d'apprécier leur cuisine.
D'accord.
Si je suis tout seul, c'est une simplicité enfantine. Ça va jusqu'à l'œuf coq, l'œuf au plat, la tranche de jambon ou la tranche de saumon. Parce que j'adore la bonne vie, j'adore bien manger, mais l'essentiel de ma vie alimentaire se passe au restaurant.
D'accord. Bon, allez, on va quand même prendre les conseils de grâce de Capitani tout
mais
de suite.
Quand même, je voudrais dire une chose.
Oui.
C'est que j'ai eu une enfance hyper gâtée, car bien que ce fût après la guerre, ma grand-mère était un gourmet très, très reconnu. Elle avait même écrit des livres de cuisine sublimes. Mmh. Ma mère faisait une cuisine italienne pour mon père à rêver, les spaghetti al dente, i rigatoni, gnocchi alla romana, tout ça, je les connaissais par cœur. Et j'ai merveilleusement mangé pendant toute mon enfance, si bien qu'aujourd'hui, je suis resté très exigeant pour manger. Mais il faut des budgets assez lourds pour ça.
Un plat préféré quand même?
Ouais, un plat préféré.
Plat préféré? Mm-hmm. Bah écoutez, au hasard, la blanquette de veau, j'adore.
Grâce de Capitani, tout de suite.
Les artistes ont la parole. Carte blanche à Grâce de Capitani.
Les artistes ont la parole avec Grâce de Capitani. Et dans la carte blanche, Grâce de Capitani, pour ne rien vous cacher, qui m'a fait une proposition indécente. Et si on se faisait un curry de crevettes? Bonjour Grâce de Capitani.
Bonjour Michel Berger. Oui, je propose aujourd'hui un curry de crevettes. Préparation 30 minutes, cuisson 45, bon, ça va. Pour 8 personnes, il vous faut 24 grosses crevettes fraîches, 3 oignons, 3 cuillerées à soupe de gai ou de beurre, 1 cuillère à café de gingembre en poudre, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de garam sala, 3 capsules de cardamone verte, 2 feuilles de laurier, 1 demi-cuillère à café de poivre de Cayenne, 2 bâtons de cannelle, 3 tomates, 1 demi-boîte de lait de coco, 1 cuillère à café de sucre semoule, 4 branches de coriandre et du sel. Décortiquez les crevettes en séparant les queues de la tête. Pratiquez une incision le long du dos et retirez le petit boyau noir, bien rincé. Passez les oignons au mixeur. Faire chauffer le gai ou le beurre dans une cocotte. Ajoutez les épices et faire revenir pendant 3 minutes. Puis ajoutez le hachis d'oignon et les tomates coupées en petits cubes. Bien mélanger le tout. Laissez cuire 10 minutes. Ajoutez le lait de coco. Laissez épaissir quelques minutes encore. Plongez les queues de crevettes dans la sauce pendant 15 minutes. Salez, ajoutez le sucre et la coriandre finement ciselée. Prolongez la cuisson 5 minutes. Servir chaud avec le riz épicé.
Merci Grâce, prochaine recette la semaine prochaine. Place à la musique dans Les Artistes ont la parole.
Les Artistes ont la parole, talk show multimédia numéro 1.
Derrière ta cigarette dans mon cœur, ça fait un tabac.
Les Artistes ont la parole, Elsa Mawart, Michel Berger.
Les Artistes ont la parole, troisième partie de cette émission, en notre compagnie Pierre Santini, que vous pouvez applaudir, que vous pouvez applaudir au Théâtre de Poche Montparnasse, aux côtés de Hervé Brio, Dialogue aux Enfers, Machiavel, Montesquieu de Maurice Joly, sur une mise en scène et adaptation de Marès Blouvoile. C'est jusqu'à fin décembre, effectivement, on peut le dire, on rappelle le téléphone, c'est le 01 45 44 50 21. Surtout, téléphonez pas tous en même temps parce que ça va saturer. 01 45 44 50 21 et puis via les sites habituels ou le www.montparnasse.com. Pierre Santini est avec nous. On le découvre. Et en troisième partie d'émission, on a tendance à s'intéresser plus aux actualités. Oui, c'est un ton un peu plus sérieux. On imagine que tu suis l'actualité ou que l'actualité te suit au travers de la télévision, de la radio, de la presse écrite ou
d'Internet. Bah, elle me poursuit.
Elle te poursuit. Hein.
C'est pas qu'elle me suit, elle me poursuit. Oui.
Elle te poursuit.
C'est difficile aujourd'hui d'y échapper.
Des grandes lignes d'actualité qui te retiennent l'esprit, qui te font réagir, Pierre.
Voilà. essentiellement, c'est la vie de mon pays et la vie de mon deuxième pays aussi et les relations de ces deux pays avec l'Europe. Parce que moi, j'appartiens à une génération qui a, hélas, connu la guerre. Parce que j'étais dans l'exode, j'étais dans l'occupation et j'étais dans la libération avec par les Américains. Je me rappelle au moins, pas de l'exode, mais des bombardements et de l'arrivée des Américains et tout. Et donc, j'ai été très jeune, initié par mon père qui était italien, alors que nous, ses enfants, étions français, initié à l'idée de l'Europe. J'appartenais aux petits Européens de Paris. On avait été reçus à l'époque à l'Élysée par Vincent Auriol, le président de la République. Comme étant des jeunes pionniers, novateurs et tout. Et donc l'Europe m'intéresse beaucoup. Je vois comment elle évolue, pas toujours bien, comment elle a grandi, puisque maintenant de 7 pays, elle est passée à 25, 26, je ne sais pas combien. Donc je suis ça de très près. Je suis ce qui se passe dans mon pays, l'expérience du nouveau président de la République, cette nouvelle majorité issue de quelque chose qui n'existait pas avant, la difficulté de la droite et de la gauche à se remettre sur pied. Non, je suis tout ça très attentivement. Et puis, je suis un peu angoissé par ce qui se passe en Italie. Mmh. Car l'Italie a connu le fascisme, elle a connu la démocratie chrétienne, elle a connu l'après-guerre avec... un renouveau démocratique, certain, mais difficile aussi. Et aujourd'hui, il y a des tendances populistes, extrémistes, hein, qui ont tendance à emmener l'Italie vers des endroits où on espérait qu'elle n'irait plus. Voilà.
On imagine que tu as une baguette magique entre les mains. Tu en fais quoi ?
Avec la baguette magique ?
Ouais.
Alors, je fais une seule chose. J'essaye de réduire l'espace des inégalités entre ceux qui ont trop et ceux qui ont pas assez.
Je trouve que cet espace s'accentue de plus en plus.
C'est pas que je trouve, c'est que c'est une réalité. Ouais, ouais. Les riches sont de plus en plus riches, enfin les trop riches sont de plus en plus riches, et les trop pauvres sont de plus en plus nombreux.
Tu trouves que la classe moyenne est en voie de disparition ?
Pas la classe moyenne, la classe moyenne, c'est vaste la classe moyenne, parce que on pourrait croire que je fais une espèce de déclaration de gauche militante, c'est pas ça. Hein. À la limite, je veux dire qu'il y a des gens riches, si c'est pour leur mérite, pour leur travail, etc., c'est très bien. Des gens très riches, parce qu'ils ont particulièrement réussi, pourquoi pas. Des gens trop riches, non. Quand j'apprends qu'un tel a... 40 milliards placés dans des appartements qu'il loue, d'autres, des centaines de milliards qu'il a en vendant dans le monde entier des trucs. Je me dis, c'est trop, ça n'a pas de sens. Par rapport à la vie humaine, ça n'a pas de sens, c'est disproportionné. Quand j'apprends que des gosses, des femmes, des enfants, des adultes crèvent de faim parce qu'il n'y a rien à bouffer, je me dis, c'est pas normal. Non, au 21e siècle, c'est pas normal. Ça ne peut pas exister. Donc, trouvons le moyen de réduire ces inégalités. Et un peu, de remettre un peu d'équilibre à travers nos grands principes démocratiques. Et la France a été en pointe, elle a inventé des systèmes de pensée et des systèmes de pouvoir mieux équilibrés. Et aujourd'hui, il y a par la crise, par tout ce qui se passe par la mondialisation, par le triomphe du libéralisme capitaliste, etc., et par l'échec du communisme, on est dans une période de déséquilibre. Donc, moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je vais être dans quelques heures ou quelques jours arrière-grand-père. J'ai envie que mes petites-filles et petits-fils et mon arrière-petit-fils qui va arriver vivent bien, pas dans les conflits, pas dans la misère, pas dans le chômage, etc. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est réduire les inégalités par des mesures fortes et voulues par tout le monde. C'est pas parce qu'on fera dans un petit coin... des mesures draconiennes, que ça empêchera tout le reste d'exister.
Est-ce que vous pensez que ça s'est accentué avec la nouvelle politique ?
Je regarde ce qu'il fait. Mm-hmm. Il a été élu par le peuple français. On sait dans quelles conditions. On sait dans quelles conditions d'échec de ce qui avait précédé. Dans quelles conditions de désunion qu'il y avait et dans la droite et dans la gauche. Il est un jeune homme de 40 ans. Il a de l'énergie. Mm-hmm. Il en veut. C'est vrai qu'il a tendance, ne serait-ce que par les choix de ses proches collaborateurs, tu vois, tendance plutôt à être centre-droit que centre-gauche, dans la vérité. Plutôt un homme de droite qui favorise quelquefois. Il part du principe que lui, il faut d'abord aider les entreprises, aider ceux qui détiennent les rouages de l'économie à exister correctement pour permettre ensuite de s'intéresser aux autres couches de la population. C'est une démarche un peu droitière, disons-le. Mais en tant qu'homme de gauche, je n'ai pas envie de l'accabler. Trop de gens le font pour rien. On vit une période où l'information est très riche, très, très, très. Jour et nuit, on balance des informations, des commentaires sur l'information, des critiques sur l'information, des détournements de l'information, etc. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Je dis simplement, je vois ce qu'il fait. Et puis, en tant que citoyen, je me prononcerai pour ou contre lui quand l'échéance arrivera. Voilà.
Pierre Santini avec nous dans Les Artistes ont la parole. On rappelle que vous pouvez l'applaudir actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse aux côtés de Hervé Brio dans Dialogue aux Enfers. C'est jusqu'à fin décembre, dépêchez-vous.
Et l'album.
Et l'album à ne surtout pas louper qui est en train de sortir. Pierre Santini chante Si Paolo Mette Conte. Une très très belle photo, un bel album. Faut vous le procurer absolument. On peut le trouver partout dans les bacs.
Bah, je pense qu'il va être partout d'ici quelques jours, oui.
Sans plus attendre.
S'il est déjà sur les réseaux internet.
Sans plus attendre. Elle se prépare. Elle est là.
Ah ouais.
Ah ouais. Ça va déchirer. C'est Wally Bageux. C'est la chronique du 2 minutes. Jingle.
Les artistes ont la parole. 2 minutes en plus. Wally Bageux.
Vous savez que le supermarché, c'est un monde dur et inhospitalier où il peut vous arriver d'horribles péripéties. Alors la musique qui tombe du plafond pour couvrir les bruits des moteurs des réfrigérateurs, de la ventilation, des cris des enfants, les rayons bondés, les têtes de gondole, les caddies pourris qui font des dérapages incontrôlés au moindre virage. Et puis le gars qui jette son sachet de gruyère par-dessus le caddie en criant « Oh ben j'en veux plus !» Les lumières blafardes qui te rendent aussi sexy qu'Angela Merkel au réveil après 4 jours de biture à la fête de la bière à Munich. Et alors l'agonisante angoisse de choisir des produits sains parmi la foule au mieux indifférente et au pire hostile. Alors quand on sait qu'en Alsace, à Ribeauvillers, le miel est rouge, bleu et vert parce que les abeilles ont fugué pour aller butiner des résidus de M&M's appartenant à l'usine Mars, ben, pas folle la guêpe, moi, j'ai choisi l'application Yuka. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application Yuka? C'est donc une application, comme son nom l'indique, très à la mode, pour vérifier la composition de vos achats à partir d'un code barre. Alors, eh ben, c'est très pratique, puisqu'on fait ses courses et on sait ce qu'il y a dans les produits qu'on achète. Oh, ben alors, des belles conserves de tomates entières. Bip, mauvais. Le revêtement contient du bisphénol A qui s'infiltre dans la boîte. Pain blanc, bip, médiocre, indice glycémique trop élevé. Des chips, bip, 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 mauvais. Bah alors pourquoi ? Il y a une concentration d'acrylamide hyper élevée qui est hyper cancérigène. On achète des saucisses ? Ah bah non, impossible. Partie d'animal, cœur, langue, estomac, sang, blindé de nitrite. Bon bah je sais pas, je vais prendre des pommes de terre alors. Mauvais. Elles absorbent les pesticides, les fongicides, les herbicides contenus dans le sol. Mathéo, ne touche pas à ce pot de confiture. C'est du benzoate de sodium. Ça rend hyperactif et c'est dangereux. Non chérie, on arrête la viande. Tu veux un cancer colorectal ? Oui ou non ? Non. Bon, non, pas de poisson non plus. C'est ça. Saturé de polluants organiques et de mercure. Au secours, mais c'est quoi cette application de daube ? Je me pose une question. Est-ce qu'on a vraiment le droit de tout savoir ? Et alors, de devenir parano ? En attendant de trancher, on va se faire livrer.
Wally Bageux, on vous soupçonne d'être fâché avec la nourriture, en quelque
merci,
part.
Magnifique.
On vous soupçonne d'être fâché avec la nourriture, Wally Bageux.
Non.
Non, tout, tranquille. Qu'est-ce qu'on mange alors ? Qu'est-ce qu'il faut manger ?
On peut manger des petits pot-au-feu maison, par exemple, quand on connaît les provenances de produits, la traçabilité, je ne sais pas, moi.
Vous faites attention, Pierre, à ce que vous mangez ? Est-ce que vous mangez bio ? Est-ce que vous faites attention à vos produits quand vous les choisissez ?
Je commence à faire attention pour une raison toute simple, c'est que étant d'un âge avancé, il y a des choses qu'on me recommande de ne pas manger, mon médecin, ma compagne, etc. Donc, et puis aussi parce qu'un acteur qui veut durer a besoin d'un surveiller un petit peu sa ligne et que j'ai arrêté par exemple complètement l'alcool, presque totalement le pain là, comme ces derniers mois, pour reperdre un peu. Ça, d'ailleurs, c'est très efficace parce qu'au bout d'un mois ou deux, on perd 2-3 kilos. Hein, mais cela dit, je fais attention. Je ne vais pas aller regarder les étiquettes avec le code-barre, etc. Non, je vais souvent vers du bio. Comme c'est pas moi qui fais les achats, c'est facile à dire. Et quand je fais les achats, j'ai souvent ma compagne à côté de moi qui me dit « Non, pas ça, Pierrot. Non, t'es fou, pas ça. Ah bon, pourquoi ? Ah bon, parce que... Bon. » Mais sinon... J'ai tendance à faire confiance, j'ai peut-être tort. Quand je vais dans des restaurants qui ne sont pas des restaurants chics, mais qui sont des restaurants normaux, je fais attention à ce que je mange, quoi. Ouais. Si le restaurateur a la gentillesse de m'afficher l'origine des viandes, je prendrai plus des viandes venant de chez nous qu'autre chose. Les légumes, je vais qu'ils soient bien cuits, etc. Mais disons que je suis prudent, mais pas devenir maladie.
Pierre Santini, exercice ma parole. On va retrouver tout de suite la musique.
Tu te souviens les couleurs sur les baskets.
Les artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole, quatrième partie de cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Pierre Santini qui est en notre compagnie. Pierre Santini que vous pouvez retrouver au Théâtre de Poche Montparnasse aux côtés d'Hervé Brio. Dialogue aux enfers, Machiavel, Montesquieu de Maurice Joly, à ne surtout pas manquer jusqu'à fin décembre. Le téléphone de réservation c'est le 01 45 44 50 21. Ça se situe au 75 boulevard du Montparnasse à Paris dans le 6e arrondissement. Donc c'est tout près du TGV pour ceux qui viennent de province. Rendez-vous à ne pas manquer. En quatrième partie d'émission, une chose sérieuse, c'est le quiz. Tu es habitué au quiz. Tu sais, on sait que tu es un collab, Pierre Santini.
Oh, c'est pas vrai.
Si, c'est la
non,
vérité.
Non, je suis pas un collab.
C'est la vérité. Mais bon,
c'est
on
pas quoi, c'est vrai, parce que je me ridicule.
On aime bien jouer. De toute façon, on s'en sort toujours. C'est comme à la fête foraine.
D'accord.
On gagne tout le temps. Il y a un gros cadeau à gagner en fin d'émission qui te fera plaisir. J'en suis sûr. N'est-ce pas, Elsa? Elsa qui est concentrée. Effectivement,
oui,
elle s'est levée à 4h du matin pour écrire ses questions.
Mais comme toi, voilà. Michel, bien sûr. On travaille dur ici. Voilà. Tout en dans la détente.
Nous n'arrêtons pas. Et oui, c'est bien, il faut continuer. On est là pour montrer l'exemple. Eh ouais, c'est comme ça.
Voilà. Donc, prêt, Pierre, pour gagner le super cadeau.
On envoie le jingle tout de suite.
Les artistes ont la parole. Le quiz.
Ah oui, et puis au passage, pendant que les cartes sont en train d'être sélectionnées, on rappelle que les artistes ont la parole, c'est sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, vous êtes très nombreux à nous retrouver. Merci de votre fidélité, de votre confiance, vous pouvez venir autant que fois que vous voulez, et encore plus nombreux, plus on est faux, plus on rit. Les artistes ont la parole, c'est aussi sur le canal 998 de votre démodulateur Orange, si vous êtes abonné, programme Les Artistes ont la parole, et ça c'est valable pour toute la France. Donc vous pouvez nous suivre 24 heures sur 24, nous pister, nous tracer, il n'y a pas de souci, nous sommes là. Le quiz, première question, Elsa, avec un super sourire. Tintin, attention.
Dans quel générique de série télévisée voit-on une ville détruite par un volcan sous les yeux d'un dragon? C'est une série qui cartonne.
Alors, me demandez rien sur les séries, je ne les regarde pas. Alors.
Mais c'est pas grave, il y a la question à choix multiple. Des fois.
Vous avez dû sûrement en entendre parler.
Ouais, on te laisse réfléchir un peu, on te laisse mariner un peu là. Le suspense, c'est parce que les artistes ont la parole, c'est une émission à suspense.
Redis-moi la question, ouais.
Ouais, vous pouvez récapépéter la question.
Alors, série américaine, dans quel générique de série télévisée voit-on une ville détruite par un volcan sous les yeux d'un dragon?
Très honnêtement, je suis incapable de répondre.
Parce que très honnêtement, on va te donner plusieurs possibilités. Selon toi, il s'agit de Game of Thrones, de Pice of Thrones ou de Pice and Love?
Ah bah je connais Game of Thrones.
Ah bah c'est ça. Ah bah voilà, tu
mais
connais bien.
Je me rappelais pas que dans le générique il y avait un volcan. Mais
ah bah c'est la bonne réponse.
Game of Thrones parce que j'ai adoré regarder, que je n'ai pas regardé à la télévision en série, que j'ai regardé sur des DVD.
D'accord.
J'en ai regardé 5-6 d'un coup et je trouvais que c'était formidablement intéressant sur le plan de l'analyse politique du pouvoir, oui.
Deuxième question, Elsa.
La famille de François Hollande est originaire de Hollande, vrai ou faux?
Je dirais faux. Elle est originaire de Corrèze, non?
On parle bien de...
De Hollande. De François Hollande.
De François, oui.
Notre cher François. On va finir par le regretter, François Hollande, non?
Et alors, le verdict?
Alors
Moi, je dis que non, moi, je dis qu'elle n'est pas originaire de Hollande.
Ben, c'est vrai.
Il est originaire de Hollande?
La famille de François Hollande.
Je ne savais pas, j'ignorais complètement. Je crois que c'était la famille de Corrèze, où il est. Où il a, sa... il a eu ses mandats politiques, où il a eu ses...
Encore deux questions, tout n'est pas perdu. Au
c'est, c'est un pléonasme quand même. Hein. Famille de Hollande, originaire de Hollande.
Elles sont vicieuses les questions hein, quand même.
Tout à fait. Hein. Là, vous êtes défoulée ce matin en écrivant les questions, Elsa. Troisième question.
Dans le thriller psychologique Inception, réalisé par Christophe Nolan, comment s'appelle le niveau de rêve le plus profond? Là, on est parti dans du délire, hein, complet.
Le niveau de rêve?
Oui, le niveau de rêve.
Le niveau de rêve.
Coma.
On te laisse réfléchir. Alors, selon toi, il s'agit du coma, il s'agit de la nymphe ou des limbes?
J'ai dit coma, j'ai dit.
Attention, réfléchis bien. Le suspense, c'est chaud dans le studio.
Redis-moi les trois noms.
Alors, il y a le coma, il y a les nymphes ou les limbes.
Ah, les limbes, oui, bien sûr.
Ah bah oui, voilà.
Les limbes, oui.
Les limbes, effectivement.
Les limbes, c'est un avant-goût des... Un avant-goût de l'enfer, c'est entre la vie et justement et le.
Nous avons un maximum
et les enfers.
Nous avons un maximum de bonnes réponses et on attaque avec la quatrième question, Elsa Mawart.
Quatrième et dernière. Donc, dans quel film inspiré d'une série des années 80 retrouve-t-on Hannibal, Futé, Looping ou Barracuda? Oh, c'est une vieille série, hein.
Oh là là,
ah oui, ça nous rappelle des souvenirs, ça. Hein.
Tintin,
oh là là.
Tintin, tintin. Alors, selon toi, c'était K2000, c'était Goldorak ou l'Agence Touriste?
L'Agence Touriste.
Bah oui, forcément.
Non, mais je suis pas très fort là-dessus. Excusez-moi, mais c'est pas que je me désintéresse.
Modeste en plus parce qu'il a gagné.
Non, mais j'ai gagné un peu par hasard, par chance, parce que. Je n'ai pas le temps de regarder les séries régulièrement. Si vous ratez des épisodes de séries ou de feuilletons, ça devient inintéressant au possible. Donc, ce que je fais quelquefois, c'est que j'achète l'album, le coffret, et je me fais, par exemple, 5 heures ou 6 heures de projection d'une série. Là, j'adore le faire, comme j'ai fait pour la série Rome, par exemple, pour Game of Thrones. Et l'autre jour, je l'ai fait sur une série israélienne sublime, parce que ça me passionne de rester 4-5 heures à regarder un très très long film, avec une suite logique des événements et des personnages, mais être à la télé comme ça suspendu, un épisode, et puis attendre, je serai pas là la prochaine fois parce que je joue le soir, j'ai dit, non, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous pensez de la télé-réalité, Pierre ?
Bon, ça m'intéresse pas beaucoup, non. Moi, je suis un homme par essence, un homme de spectacle qui suppose que la littérature, l'écriture, disons, l'imaginaire et l'invention sont les parties prenantes primordiales de toute création. Donc, j'ai besoin de gens qui écrivent. Je sais plus ces gabins qui disaient, ouais, faut un bon film, faut un bon scénario, deuxièmement un bon scénario, troisièmement un bon scénario. C'est vrai que moi, quand je joue le texte de Machiavel, Montesquieu, je suis heureux avant tout parce que c'est des beaux textes. Pour un acteur, dire un beau texte, dire Corneille, Molière ou Racine, mais même des auteurs contemporains. Il y a des auteurs contemporains qui ont des plumes sublimes. L'an dernier, j'ai joué à la Passation de Christophe Maury. Je me suis régalé. C'était beau à faire, beau à dire. Donc ça, l'imaginaire, parce que je ne crois que simplement parler de la réalité telle qu'elle est, la réalité parle mieux que tout le monde d'elle-même. Et ensuite, parce que je pense que l'imagination est un élément fondamental de toute création. Et puis ensuite, l'invention, parce que il faut dépasser à la fois le regard sur le réel, à la fois sa propre imagination, pour inventer des formes de récits nouvelles. Et je pense que la télévision a su le faire, ça. Le cinéma l'a fait aussi à son époque. On invente à chaque époque des formes de... des manières de raconter les choses différentes.
Pierre Santini avec nous dans Les Artistes ont la parole. Anne-Charlotte Monville. Eh oui, c'est tout de suite l'heure des conseils pour dompter son homme. Bonjour Anne-Charlotte.
Les Artistes ont la parole, les clés du bonheur. Anne-Charlotte Monville.
Les artistes ont la parole avec Anne-Charlotte Monville. Bonjour Anne-Charlotte Monville.
Bonjour Michel Berger.
Une nouvelle chronique du bien-être aujourd'hui.
Et oui. Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme ?
Voilà une bonne question.
C'est une très bonne question et j'ai fait un petit sondage et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, les hommes ont besoin d'une femme attentive, qui se souvienne des choses qu'il aime. Si votre homme adore le Paris-Brest par exemple, eh bien, achetez-lui un petit gâteau chez votre boulanger, un Paris-Brest, ou du soda, son soda préféré, son vin préféré. C'est des petites attentions, mais qui font la différence. Deuxième point, les hommes veulent une femme indépendante. Soyez femme fatale. Ne soyez pas à ses bottes à attendre son SMS ou « Ah tiens, il m'a pas répondu ». Ok, vous envoyez un SMS, et ben, c'est pas grave, vous avez fait votre action, vous passez à autre chose. Vous allez vous acheter du parfum par exemple, vous allez vous faire un petit maquillage, un petit massage. Les hommes justement aiment les femmes qui prennent soin d'elles. Et oui, c'est important ça quand même.
C'est important effectivement.
Hein ? D'ailleurs les femmes aussi aiment les hommes qui prennent soin d'eux. C'est important aussi, j'en avais déjà parlé dans une chronique précédente, d'être toujours positive, d'aimer la vie, de ne pas vous plaindre. Soyez dans le merveilleux, dans le sublime de la relation. Ça, c'est très important pour garder un homme. Et enfin, les hommes veulent une femme bienveillante. Soyez bienveillante. Ne critiquez pas, puisez l'or dans chaque chose. de la vie.
Merci Anne-Charlotte. Pierre Santini, cette émission est déjà terminée.
Oh, déjà ?
Ça, on n'a pas vu le temps passer, Elsa.
Ça a passé très vite.
Trop vite. Il faut faire quelque chose sur la pendule, on va la trafiquer. Pierre Santini, on te retrouve sur les planches du Théâtre de Poche Montparnasse jusqu'à fin décembre pour Dialogue aux Enfers avec Machiavel et Montesquieu.
Venez avec vos enfants, venez tous nombreux, les adultes et les jeunes. Vous verrez, ça concerne tout le monde, chacun y pense ce qu'il veut, ce qu'il peut, hein, comme dans tout spectacle. Mais je crois que là, il y a une actualité de la pensée qui est intéressante de réactiver. Voilà.
Et le dernier album, donc l'album de Pierre Santini aussi, qui est sorti.
Il y a cet album que j'ai fait à partir de 15 chansons de Paolo Conte, dont deux en italien et le reste en français. Et puis il y a une petite chose, une petite perle qui doit être sur les réseaux actuellement, qui s'appelle Amico. C'est une chanson française, mais que j'ai traduite en italien avec Cesare Capitani et que j'interprète en italien et qui est un petit clin d'œil aux jeunes migrants, aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs, mais aux migrants, en disant « Ami, je sais que tu es là, pas loin d'ici, et c'est ton courage qui m'inspire, et moi aussi j'ai vécu des choses difficiles. » Et ça me rappelle ce plaisir que j'ai eu à voir sur France Télévisions il y a quelques semaines, Les histoires d'une nation.
Pierre Santini, merci d'être venu dans Les Artistes ont la parole. Au fait, pour le jeu du quiz, tu as gagné effectivement le droit de revenir. Tu reviens quand tu veux, cette
deuxième
émission et la tienne. On va remercier Stéphanie Terrien, Grâce de Capitani, Wally Bajeux, Anne-Charlotte Monville et Cognac G pour les moyens techniques. On se retrouve la semaine prochaine
merci
sur cette même antenne pour de nouvelles aventures,
merci
Elsa.
Merci Wally, merci Pierre Santini de votre
merci
présence.
À vous trois.
Au revoir tout le monde. Salut, ciao.
Merci, bye. Mi son svegliato.